il est midi et demi sur France Culture. C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Donald Trump prête donc serment ce vendredi sur les marches du Capitole. Des centaines de milliers d'Américains, partisans ou adversaires attendus à Washington. Selon son entourage, son discours d'investiture prendra moins la forme d'un programme que d'une vision. Reportage sur place de Claude Guiba à l'analyse de Nadine Epstein. Et puis on reviendra aussi sur ces centaines de milliers de femmes qui doivent manifester demain dans plusieurs grandes villes pour protester contre l'entrée en fonction du nouveau président américain. Genèse d'une protestation dans cette édition avec Camille Magnard. La politique française, c'était le troisième débat de la primaire élargie du PS. Hier soir, suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2. À deux jours du premier tour, l'incertitude demeure sur les finalistes et sur le taux de participation. Quels que soient les chiffres et le résultat, le Parti socialiste paraît structurellement fragilisé, commentaire politique de Stéphane Robert. L'invité de la séquence interview, Sébastien Chenu, conseiller régional d'Île-de-France, délégué national du Front National. Et donc dans la dernière partie de la Grande Table, nous continuons sur notre thème du jour, Olivia Jasbert.
Oui, avec le passage à Paris de l'historienne américaine Joan Scott, figure du mouvement féministe aux États-Unis et spécialiste de la question du genre. Elle vient de co-signer également un ouvrage avec Bruno Perrault, Les défis de la République, genre, territoire, citoyenneté. Aux presses de Sciences Po. Elle sera notre invitée dans une vingtaine de minutes.
Des centaines de milliers d'Américains, partisans, enthousiastes ou farouches, opposants, sont donc attendus dans quelques heures maintenant sur les larges pelouses du National Mall, qui fait face donc au Capitole, où nous retrouvons Claude Guibal.
Ça tourne au jeu sur les parkings où l'on regarde les plaques d'immatriculation, dans les lignes d'attente pour assister aux festivités de l'investiture. On s'apostrophe. Et vous, d'où venez-vous ? Arizona, Nevada, Kansas, Kentucky, c'est l'Amérique entière, l'Amérique profonde qui s'est déplacée à Washington. Et dans la capitale fédérale si policée et où on a voté à 93% contre Donald Trump, cette invasion de provinciaux en casquette rouge provoque parfois des moues désapprobatrices. Cela n'a pas échappé à Jason, un père de famille de l'Ohio venu exprès, dit-il, assister à cette reconquête de la capitale.
Ils nous regardent de haut. Ils ont tort. Ce n'est pas une revanche, mais disons plutôt que ça suffit de nous écraser. C'est une démocratie, vous devez écouter le peuple.
Beaucoup viennent ici pour la première fois, c'est l'occasion de visiter des monuments clés de l'histoire américaine, comme pour Jane, venue du Texas.
Notre histoire a été comme jetée à la poubelle. Beaucoup ne veulent pas admettre que notre pays a été fondé sur la foi judéo-chrétienne. Et c'est le moment pour la majorité silencieuse de se lever et de dire « on veut que notre pays redevienne ce qu'il était ».
Connaître cette Amérique, c'est ce que leur a promis Donald Trump, qui dans quelques heures à son tour gravira les marches du Capitole.
Voilà, journée chargée donc en rituel. Le 45e président de l'histoire américaine va prononcer à 18h son heure française, son discours d'investiture, qui selon son entourage prendra moins la forme d'un programme que d'une vision, c'est le terme utilisé. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
On dit que Trump est imprévisible, mais on peut quand même dégager quelques grands axes assez nettement définis.
Oui, et en fait ce sont dans les états dits bleus, donc à majorité démocratique, que se dérouleront les défilés de protestation, histoire de montrer aux nouveaux arrivants à la Maison-Blanche qu'une partie de la population américaine veillera aux décisions que seront prises, notamment celles qui risquent de restreindre les droits des femmes et les droits des minorités, en particulier des immigrés. Jusqu'à présent, beaucoup d'Américains sont déboussolés. Donald Trump a dit tout et son contraire, ce qui s'explique partiellement par le fait que le nouveau président, qui a aussi été élu car il n'appartient pas au sérail politique, doit maintenant rallier les institutionnels qui ne le sont pas acquis et dont il a besoin pour gouverner en vrac. Une partie des élus républicains, des représentants des agences de renseignement, des hauts gradés de l'armée, etc. Mais dans le même temps, les ministres qu'il a choisis, même si leurs nominations doivent encore être validées par le Sénat majorité républicaine, montrent bien les intentions du nouveau président. Il envisage de détricoter une partie de ce qu'a fait son prédécesseur Barack Obama, l'Obamacare pour ce qui concerne la santé, la construction d'un mur avec le Mexique contre la venue des immigrés, le renoncement aux mesures concernant le réchauffement climatique, l'autorisation du recours à la violence pour les policiers, la nomination prochaine du 9e juge manquant à la Cour suprême et il choisira probablement un magistrat anti-avortement, ce qui risque de compliquer l'accès à l'IVG dans les états pro-life en opposition au pro-choice. Reste à voir bien sûr ce qu'il fera vraiment délibérément et comment il pourra mettre en œuvre ses promesses, comme celles qui ont enchanté ceux qui ont voté pour lui, la création de millions d'emplois, la baisse des impôts et des taxes, le retour des immigrés chez eux ou encore l'annulation de l'accord nucléaire iranien.
Merci beaucoup Nadine Epstein. Je renvoie à votre magazine qui sera diffusé tout à l'heure à 17h. USA, le deuxième sexe en première ligne, c'est le titre. Reportage donc de vous-même et réalisé par Annie Brault. Ce reportage, présentation du magazine par Benoît Bouscarel. Donc des manifestations hostiles se sont d'ailleurs déjà déroulées hier soir à New York. Ce matin aussi à Manille, devant l'ambassade américaine. Des centaines de Philippins étaient présents. Il y aura d'autres manifestations qui sont attendues aujourd'hui à Prague, à Bruxelles, à Berlin ou à Londres. Et puis il y a donc cette Women March que nous évoquons aujourd'hui sur France Culture en particulier. C'est une grande manifestation dont l'ambition est donc de rassembler des centaines de milliers de femmes pour protester contre l'entrée en fonction de Donald Trump. Camille Magnard, vous nous expliquez d'où vient ce mouvement.
Oui, des femmes en première ligne demain sur les mêmes pelouses de Washington qui vont voir l'investiture aujourd'hui. Les organisateurs de cette Women's March espèrent jusqu'à 500 000 personnes. Ils annoncent aussi plus de 600 cortèges solidaires à travers 57 pays du globe. On n'est pourtant pas le 8 mars, mais ce mouvement s'est bien développé en réaction à l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. L'idée est née en fait dès le 9 novembre, jour des résultats de l'élection américaine. Idée lancée sur Facebook depuis Hawaï par une avocate féministe à la retraite. Idée d'une protestation massive pour défendre les droits des femmes, menacée par les positions très misogynes, sexistes de Donald Trump tout au long de la campagne. Je vous épargne ici le florilège. De fil en aiguille, de retweets en soutien affichés sur les réseaux sociaux, la Women's March a pris corps, elle s'est organisée, elle a fédéré des personnalités. La chanteuse Beyoncé, par exemple, est l'une de ses plus influentes recruteuses sur le web. Mais derrière la mobilisation féministe, le phénomène Women's March agrège désormais Amnesty International, les défenseurs des droits civiques, de Black Lives Matter, des immigrés, des musulmans, des pro-avortements, des écologistes, des homosexuels ou des handicapés. Un vrai inventaire en creux de toutes les prises de position à l'emporte-pièce de celui qui deviendra tout à l'heure le 45e président des États-Unis, comme une suite plus massive, plus réfléchi au rassemblement spontané des premières heures après l'élection de novembre. Et plus on s'éloigne de Washington, plus les slogans s'élargissent encore. À Paris, demain, une quarantaine d'associations et de partis politiques de gauche appellent à manifester au Trocadéro contre la politique réactionnaire à l'œuvre aux États-Unis et qui, je cite leur communiqué, concrétise une dynamique plus large dans le monde, en Europe et donc en France.
Camille Magnard, merci beaucoup. Nous saluons l'invité de la dernière partie de la grande table, l'historienne américaine Joan Scott. Bonjour madame.
Bonjour.
Pourquoi les femmes devraient-elles manifester en premier et pourquoi est-ce que c'est plus ouvert?
On peut dire c'est parce que les femmes ont des idées meilleures que les autres, mais je pense aussi que c'était une question des droits qui étaient attaqués par Donald Trump et le misogynie de ce candidat. Et les droits qui ont fait perdre dans son administration. Le droit d'avortement, vous avez mentionné déjà le Cour suprême, s'il y a sûrement il y aura une conservatrice réactionnaire sur le Cour. Donc on va perdre le droit d'avortement. Il y aura la question de contraception parce que dans le Obamacare, dans les assurances médicales de la santé, il y avait des subventions pour la contraception. Et aussi, je crois que pendant des années, il y avait développé les liens entre les femmes et les autres, les émigrés, par exemple, les jeunes sans papiers, les musulmanes, les gays, les indigènes, les noirs, handicapés, etc. Je pense que même avant Trump, mais surtout pendant la campagne, ils avaient développé ces liens entre les mouvements. Et les féministes étaient au centre.
Et c'est ce qui se manifeste donc aujourd'hui et demain à l'occasion de cette investiture. Merci, Joan Scott, d'avoir accepté de participer aussi à cette édition. On vous retrouve donc dans quelques minutes après le journal dans la dernière partie de la Grande Table. On salue l'invité maintenant de la séquence interview, Sébastien Chenu. Bonjour.
Bonjour.
Conseiller régional donc de la région Hauts-de-France et non pas Île-de-France, comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur. Conseiller régional Front National. Madame Le Pen jugeait ce matin que Donald Trump comptait sur la France et pas sur le fantôme de la France. Elle dit croire que Donald Trump va être un président des États-Unis qui est prêt à accepter le principe même de la souveraineté des nations et ce dont elle se réjouit. Est-ce que ce succès de Trump vous inspire ?
Ce succès de Trump, ce succès électoral, pour l'instant, de Donald Trump, nous inspire l'idée que nous puissions effectivement ici nouer demain, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, une nouvelle forme de coopération avec les États-Unis, tout comme les États-Unis en noueront par exemple avec la Grande-Bretagne, c'est ce qu'a indiqué Donald Trump. Je rebondis tout de même sur ce que j'entends, sur cette chanson qu'on a entendue.
Oui, moi, demander de réagir aussi à tout ce qu'on vient de dire.
Je ne suis pas l'avocat de Donald Trump, mais simplement on avait entendu cette espèce de petite chansonnette avant son élection, où ici même d'ailleurs on nous disait qu'il ne pourrait même pas être en capacité de remporter la primaire. Il est aujourd'hui président des États-Unis. Et là on nous décrit un paysage apocalyptique en devenir dans lequel le pire est certain et le meilleur hypothétique. Bon, laissons-lui le temps de s'installer. Donald Trump a été élu. C'est le jeu de la démocratie.
Ça dépend ce qu'on entend par pire et meilleur. On n'a pas forcément la même idée du pire et du meilleur.
Des gens sont déçus, des gens manifestent.
Mais
très
vous,
bien,
vous
c'est la démocratie.
Quoi, vous
Mais nous ce qu'on attend, c'est une relation équilibrée avec les États-Unis, dans lequel les États-Unis respectent la liberté et l'indépendance de la France, et dans lequel nous respectons également l'identité, la liberté, l'indépendance
des
États-Unis.
Et sur ces questions de société.
Et non pas de l'Europe.
Sur ces questions de
la France, pas l'Europe, monsieur. La France. Nous considérons que nous devons être traités non pas comme un État de l'Union européenne en déliquescence, mais comme un État à part entière, donc comme un partenaire à part entière. C'est très différent dans les relations qu'on peut avoir avec un pays ami comme les États-Unis.
Voilà. Ça, on vous retrouve tout à l'heure, Sébastien Chenu. Je signale d'ailleurs que Marine Le Pen sera demain, je crois, en Allemagne, et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. On vous retrouve donc dans la séquence interview. L'association Oser le féminisme exprimait hier sa colère en réaction au choix du réalisateur franco-polonais Roman Polanski pour présider la 42e cérémonie des Césars et elle a appelé cette association à un rassemblement de protestation le mois prochain. Le réalisateur est poursuivi, on le sait, depuis 40 ans maintenant par la justice américaine pour le viol présumé d'une mineure en 1977. Réaction ce matin de la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Elle était l'invitée des Matins de France Culture.
Je trouve que c'est un choix qui témoigne de la part de ceux qui ont décidé de le nommer président des Césars, d'une indifférence à l'égard des faits qui lui sont reprochés. En fait, c'est pas grave pour les organisateurs que Roman Polanski soit poursuivi aux États-Unis et à son actif le viol d'une jeune fille de 13 ans, d'une enfant de 13 ans. Et ça s'inscrit, à mon sens, dans une espèce de banalité à l'égard du viol. C'est ce que les féministes désignent comme étant la culture du viol dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire que les agressions sexuelles, le viol, tout cela n'est pas si grave, ça ne pèse pas tant que ça sur la conscience d'un homme. Je crains que ça révèle de la part de ceux qui l'ont désigné une forme d'indifférence à l'égard de quelque chose qui aujourd'hui reste grave et que nous cherchons par ailleurs à combattre.
Laurence Rossignol, donc, ce matin avec Guillaume Herner, interrogé sur France Info. L'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a en revanche estimé que ce choix est la liberté absolue de l'Académie des Césars et elle souhaite même qu'on laisse Roman Polanski présider donc cette cérémonie. Johann Scott, sur cette question.
Oui, moi je suis d'accord avec Laurence Rossignol. Je pense que le choix représente une banalisation d'idées de viol des femmes et aussi une indifférence aux expériences des femmes. Et moi, je pense aussi que chez nous, aux États-Unis, Trump a promouvoir cette culture de viol.
Merci beaucoup d'avoir continuer de participer à cette édition. Johann Scott, peut-être vous voulez dire un petit mot aussi, Sébastien Chenu, là-dessus
ou... Oui, sur cette affaire des Césars, évidemment l'Académie des Césars est tout à fait libre de faire ce qu'elle veut. Il serait très opportun qu'elle ait de temps en temps bon goût. C'est plutôt
ça
de mauvais goût. C'est plutôt de mauvais goût. On sait très bien ce qui est reproché à ce réalisateur. Et je crois que il y avait d'autres personnes qui auraient pu être mises en avant. Il transporte avec lui toute une série de faits divers un peu sulfureux. Donc voilà, si de temps en temps l'Académie des Césars pouvait avoir bon goût, mais c'est peut-être beaucoup
bon,
lui en demander.
C'est ce que vous lui demandez en tout cas. Nous passons tout de suite à la politique française, à ce troisième débat de la primaire élargie du Parti Socialiste qui a été suivi hier soir par plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2, mais c'est quand même 2 millions de moins que les 5 millions qui avaient suivi le troisième débat de la primaire de la droite, c'était sur la même chaîne. À deux jours maintenant du premier tour, donc ce sera ce dimanche. L'incertitude demeure sur les deux finalistes, évidemment, mais aussi sur le taux de participation. Quels que soient les chiffres de participation et même le résultat de cette primaire, il n'en reste pas moins, Stéphane Robert, que la situation du PS est structurellement fragilisée dans cette élection.
Oui, il est évidemment très difficile d'avoir une idée de combien d'électeurs se déplaceront. 1 million, 2 millions, un peu plus peut-être, allez savoir. Toujours est-il que, quel que soit le candidat qui sortira de ce scrutin, ce sera un candidat fragile et d'une fragilité effectivement d'ordre structurel. Si c'est Manuel Valls qui sort du chapeau, jamais les partisans d'Arnaud Montebourg ou de Benoît Hamon ne se rallieront à son panache. Et si c'est Montebourg ou Hamon qui l'emporte au bout du compte, jamais les valsistes et autres centristes du PS ne les rejoindront. Pourquoi ? Parce que vous avez de côté un Manuel Valls qui essaie, tant bien que mal, d'assumer le bilan du quinquennat à la place de François Hollande. Et on a pu voir combien c'était compliqué. Et de l'autre côté, vous avez Hamon et Montebourg qui, eux, sont dans la rupture, qui, eux, défendent ce qu'ils appellent un vrai programme de gauche. En quelque sorte, ils nous refont le discours du Bourget, ou pour le dire autrement, ils remettent sur la table, dans une version actualisée, les promesses non tenues par le président. Dès lors, vous voyez pourquoi le vainqueur de cette primaire sera un candidat fragile. Déjà parce qu'il y a un problème de crédibilité, et puis parce qu'il y a une faille entre eux, béante et infranchissable, parce que le gagnant se retrouvera dans l'incapacité de rassembler son camp. C'est la raison pour laquelle vous avez tout un tas de socialistes qui annoncent avant le scrutin, depuis déjà 2 ou 3 semaines, leur ralliement à Emmanuel Macron. Pour lui, ça tombe comme à Gravelotte. Hier, c'était le maire de Montpellier. Avant-hier, le député maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier. J'en passe, ça n'arrête pas. Et s'il y a ce phénomène chez les socialistes, c'est parce qu'aucun des candidats à la primaire n'apparaît en mesure de concurrencer François Fillon et Marine Le Pen pour accéder au second tour de la présidentielle. Il y a donc ce spectre d'un nouveau 21 avril, comme en 2002, qui se profile. C'est une des raisons essentielles du ralliement massif de tout un tas de gens de gauche, en particulier de socialistes, à la candidature de Macron. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche, alors que pour le moment, il n'a pas vraiment de programme. Mais du coup, ça fait aussi d'Emmanuel Macron un candidat potentiellement fragile.
Merci beaucoup Stéphane Robert pour cette analyse politique de la situation. Donc à 2 jours maintenant du premier tour de cette primaire, 7 jeunes gens âgés de 16 à 20 ans déférés aujourd'hui devant la justice dans le cadre de l'enquête sur l'agression de policiers à Viry-Châtillon. C'était en octobre dernier dans l'Essonne, donc une agression qui avait déclenché, on s'en souvient, un mouvement de colère des forces de l'ordre. Ils seront mis en examen pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, selon le procureur d'Evry. Les suspects, qui sont originaires du même quartier, certains membres d'une même bande, ont voulu mettre fin à la surveillance renforcée par les forces de l'ordre du quartier de la Grande Borne à la suite de la mise en place d'une caméra de vidéosurveillance. Encore quelques informations de l'étranger. La guerre en Syrie d'abord, avec à quelques jours de l'ouverture à Astana de négociations pour un règlement du conflit. Les opérations meurtrières contre les organisations djihadistes se sont multipliées ces derniers jours. Dernière en date, celle qui a touché 40 membres du groupe Fatah al-Sham qui ont été tués donc par des frappes, on ne sait pas encore de quelle origine, contraints de leur camp en Syrie. Et puis dans la ville de Palmyre, les djihadistes du groupe État islamique ont détruit 2 monuments antiques, en particulier le Tétrapile, qui est un monument de 16 colonnes. Et l'UNESCO, à l'instant, dénonce ces nouvelles destructions et parle de crimes de guerre. Après plusieurs médiations menées sans succès en Gambie, les présidents mauritaniens et guinéens tentent encore aujourd'hui de convaincre Yahya Jammeh de céder la place à son successeur Adama Barrow. Et ce, avant l'expiration de l'ultimatum par l'organisation ouest-africaine, afin d'éviter une intervention militaire. En tout cas, il y a les troupes de la CDAO qui sont conduites par le Sénégal, par le Nigeria, qui sont entrées hier en territoire gambien, pris position donc à la demande du nouveau président qui, lui, a été investi à l'ambassade de son pays à Dakar. 12h49 sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. Retour vers vous, Sébastien Chenu, et question de Christine Moncla.
Sébastien Chenu, vous êtes co-responsable de la cellule idée-image au sein de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Alors, parlons justement de cette photographie prise de Marine Le Pen il y a une semaine tout juste à la Trump Tower. On reste dans l'actualité. D'où est venue cette idée d'aller prendre un café à la Trump Tower et qu'est-ce que vous pensez de l'image que ça a renvoyée de Marine Le Pen ?
Marine Le Pen n'est pas allée prendre un café à la Trump Tower. Elle a répondu à une invitation à dîner d'une personnalité qui est, on le sait, proche de Donald Trump, Guido Lombardi, qui de longue date lui avait proposé d'organiser un dîner pour lui présenter un certain nombre de personnalités américaines. Elle a rencontré également, de mémoire, un membre du Congrès le lendemain à Washington.
Et pourquoi ce n'était pas son agenda, du coup ?
Mais parce que c'était un dîner privé qui n'avait rien d'une rencontre officielle et politique.
C'était pas l'agenda de M. Trump de venir la saluer ?
Ben, c'était pas l'agenda de M. Trump de venir la saluer, bon. C'était pas l'agenda officiel de Marine Le Pen. Si vous voulez, tous les dîners que peut faire Marine Le Pen ne sont pas à son agenda. Vous seriez parfois surpris de savoir avec qui elle dîne d'ailleurs. Et ça vous excitera encore davantage que son déplacement à Washington qui a rendu probablement un peu hystérique certains médias de ne pas savoir avec qui, quand, comment, etc. Oui, non, Marine Le Pen rencontre un certain nombre de personnalités et pas uniquement d'ailleurs à New York ni à Washington.
Alors du coup, qu'est-ce qu'elle en a ramené de ce déplacement en catimini à New
York ? Non, un déplacement privé, c'est pas en catimini, un déplacement privé. Je crois que quand les hommes politiques, quels qu'ils soient, ont des dîners, ils ne sont pas obligés d'en rendre compte immédiatement à la sphère médiatique.
Un dîner privé qui est imputé sur les comptes de la campagne, ça faisait partie de la campagne
ou pas ? Ce qu'elle a ramené de ce dîner, c'est un certain nombre de contacts. Pourquoi ? Parce que demain, Marine Le Pen, élue présidente de la République, devra travailler avec une administration, avec également un certain nombre de personnalités en dehors de l'Hexagone, et qu'il est bon que des ponts soient jetés, que des ponts soient lancés, qu'une capacité à travailler ensemble dès sa prise de fonction se réalise. Donc il est nécessaire de préparer les choses. Et ça participe de ce travail de préparation que nous menons depuis un certain temps.
Donc c'est un déplacement de campagne.
Nous avons des partenaires, c'est un déplacement d'après-campagne, je dirais. C'est un déplacement qui sert à préparer notre accession aux responsabilités, au pouvoir et les relations qu'on peut avoir. Mais ça n'a rien d'original. Tout le monde, quand Emmanuel Macron va chercher des fonds, ou quand Alain Juppé le faisait également à Londres ou aux États-Unis, rares sont ceux qui peuvent s'en émouvoir.
Et elle a pu trouver des financements américains, justement.
Bah, écoutez, on aimerait que ça puisse aboutir. Toutes les bonnes volontés, puisqu'elle n'existe pas en France, il y a une espèce de tir de barrage absolu pour des banques, d'ailleurs, assez antidémocratiques. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui le disait. Écoutez, si on ne trouve pas en France, on espère que quelques généreux prêteurs pourront exister au-delà de l'océan.
Peut-être que Donald Trump lui-même pourrait lui prêter de l'argent.
Ah, écoutez, vous lui poserez la question ou à ses relais, ça n'a pas fait partie, en tous les cas, je ne crois pas, des questions qu'elle a pu poser aux gens qui sont proches de lui. Mais tout cela, en réalité, nous amène à préparer l'après.
Pour l'instant, la campagne, donc elle a été démarré, on va dire véritablement là en janvier. Hein. Effectivement, une semaine après, elle était aux États-Unis. En attendant, les déplacements en France connaissent quelques ratés. Ils ont été reportés, annulés, modifiés. Elle devait aller dans le Doubs. Finalement, elle est allée à Forbach. Elle a passé une heure dans une entreprise qui était dirigée par un élu local du Front National.
Que des déplacements soient reportés ou changent dans une campagne électorale, je ne vois rien de très surprenant.
Ça change beaucoup. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à organiser des déplacements ?
Particulières, je ne vois pas, quand bien même vous souhaiteriez qu'il y en ait, il n'y en a pas. Dans l'heure, ça s'est très bien passé. Elle est venue parler d'ailleurs de la désertification rurale, de l'abandon des services publics dans les territoires périurbains. Ça s'est, je crois, très bien passé. En Moselle, elle est allée voir des chefs d'entreprise qui...
Un chef d'entreprise qui est un élu du Front National.
C'est probablement ennuyeux qu'il y ait des chefs d'entreprise qui soutiennent le Front National. Mais oui, il y en a. Et elle est allée voir ce chef d'entreprise qui... une très belle société d'ailleurs, qui exporte du savoir-faire français. Donc aller le rencontrer, aller savoir comment il procède, quels sont les obstacles qu'il rencontre pour développer le patriotisme intelligent, ce patriotisme économique que nous appelons de nos voeux, eh bien ça fait partie du boulot. Rassurez-vous, elle va aller ailleurs, elle va continuer, elle va rencontrer des Françaises et des Français, des actifs, des inactifs, des gens qui ont quelque chose à dire, quelque chose à proposer, et elle le fait au rythme qui est le sien, et non pas au rythme que certains voudraient lui dicter.
Et justement, ça fait un an qu'elle rencontre en secret, en tout cas loin des médias, comme elle le souhaitait, les Français, pour préparer son projet. Ça fait un an qu'elle prépare son projet et il n'est toujours pas là. Il devait être bouclé ces jours-ci, nous avait-on dit. Et finalement, il ne l'est toujours pas. Qu'est-ce qui bloque ?
Mais vous avez beaucoup d'impatience, je le comprends. Je comprends cette
impatience. On est juste en campagne électorale peut légitimement avoir envie de lire les projets des uns et des autres.
Emmanuel Macron n'a ni projet ni programme.
C'est bien.
Je ne sais pas si on lui adresse les mêmes questions.
Est-ce que c'est bien ? Non,
questions.
On vient de dire que justement,
mais nous, nous en avons un.
On lui adresse les mêmes questions.
Mais il est où ? Non, mais attendez. Pendant de longues années, on a fait le procès au représentant du Front National, au candidat du Front National, d'arriver au présidentiel avec un projet léger. le moins qu'on puisse dire. Eh bien aujourd'hui, il y a un projet, un programme qui sera dévoilé. Vous voyez, ça n'a pas changé la date. Le premier week-end de février à Lyon. Cette date, elle est annoncée depuis des mois, elle sera tenue. Aujourd'hui, Marine Le Pen a effectué les arbitrages liés au travail, que font d'ailleurs depuis plus d'un an, depuis deux ans, tous les collectifs. J'ai moi le plaisir d'animer celui sur la culture. Eh bien, tous ces gens ont rendu des propositions. Elle a retenu un certain nombre de celles-ci. Elle a mis en cohérence celles-ci à travers un projet et un programme qu'elle dévoilera début février. Rien de très exceptionnel à tout cela.
Alors, dernière question.
Un point thématique, par exemple, l'abrogation du mariage pour tous. Le FN est le seul parti à le réclame officiellement. Est-ce que ça restera tel quel dans le projet 2017 ? Oui,
alors,
non.
Vous poserez la question quand elle le dévoilera. Il faut aller jusqu'au bout de votre phrase. L'abrogation du mariage pour tous pour le remplacement par une union civile avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est-à-dire qu'il ne s'appelle pas le mariage. Il faut aller jusqu'au bout et ne pas laisser les gens sur leur faim.
Sébastien Chenu, merci beaucoup merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Christine Monclat, toujours froid, c'est la météo. Mais encore ensoleillé, des maximales qui vont légèrement remonter, surtout sur le sud d'ailleurs, de 5 à 11 degrés cet après-midi, contre 0 à 4 degrés au nord. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.